Bonjour. L'enregistrement n'a pas pu avoir lieu hier. Et ce matin, je refais mon message pour ceux et celles qui n'ont pas pu être là au culte hier. Je suis dans mon bureau, il est 5 heures du matin, donc une voix légèrement rouée, j'imagine, voix du matin. Mais voilà, je voulais aussi vous offrir la possibilité d'entendre le message. J'ai sur le cœur d'amener un message dont je vais le nommer Dans le désert. Le désert est un lieu important dans les récits de la Bible. C'est un lieu dont il est souvent mention. C'est vraiment un lieu où souvent les personnages de la Bible se trouvaient. Pour illustrer mon propos, je vais parler de l'histoire de Dieu et Agar. Ah, c'est une des histoires de la Bible que je préfère. Vraiment. Alors, je ne vais pas raconter tout le... Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas recommencer à tout raconter le contexte. Mais voilà, dans le désert. Alors, heureusement, près d'un puits, c'est peut-être un bon point pour une belle surprise pour Agar. Mais voilà une femme au temps d'Abraham, n'est-ce pas? Donc il y a très très longtemps, qui, déjà une femme, le fait d'être femme à l'époque, seule, une femme seule sans la présence d'un homme, est déjà d'être vulnérable. Donc vulnérable parce qu'elle est femme, elle est esclave, elle est enceinte et le papa l'a livrée à sa maîtresse. Donc le papa n'est pas vraiment, le papa de l'enfant n'est pas vraiment là pour s'occuper de la mère de son enfant. Elle est maltraitée, donc en fuite, fugitif. Et dans le désert. Donc voilà, déjà cinq choses qui vont mal, qui sont défiants dans la vie d'Agar. D'être une femme, d'être une servante, une esclave, une position sociale tout en bas de l'échelle sociale, d'être enceinte sans le papa qui prend soin de cet enfant. Et d'être fugitif et maltraité. Voilà où se trouve Agar au début de notre récit. Et j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle n'est vraiment pas une personnage principal de l'Église, de la Bible. Et pourtant, hein, elle ne fait pas partie des top 10, hein, tout en haut, on a donc Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, assez vite, qu'est-ce qu'on aura? On aura Abraham, on aura David, Moïse, Paul, Pierre. Voilà, donc pas du tout dans les top 10. Et pourtant, sans qu'elle ait demandé, à deux reprises, sans qu'elle ait fait appel à Dieu, à deux reprises, Dieu la rencontre. Et c'est chaque fois dans le désert. Donc c'est vraiment, vraiment intriguant cette histoire, hein, et vraiment très beau. Je vais le lire donc dans le texte, c'est Genèse 16. Genèse 16. Voilà, Agar s'enfuit. L'ange de l'Éternel, et là on pourrait faire tout un message sur qui est l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? Je vais partir du principe que c'est Dieu. Donc l'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de K'shour. Il lui demanda, Agar. Oh, et faisons un petit arrêt maintenant, parce que c'est si beau comme Dieu lui parle. Non seulement, voilà, il vient à la rencontre sans qu'elle ait appelé, et il l'appelle par son nom. Donc Agar est servante de Sarai. Donc il lui redonne une dignité, n'est-ce pas, en lui appelant par son nom, en sachant qui elle est, en nommant et finalement son métier ou son identité. Et là, est-ce que c'est Jésus très a fait très souvent, hein, n'est-ce pas? Un aveugle, il dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et voilà que Dieu demande à Agar de nouveau une question. Une question pour moi est d'une façon si délicate et si respectueuse d'entrer en contact avec quelqu'un. Poser la question, c'est redonner à l'autre sa dignité. C'est vraiment de lui donner une chance de déjà s'expliquer sans déjà lui imposer notre avis. Et cette question incroyable de Dieu, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? J'aimerais beaucoup, je vous propose, c'est une question existentielle, n'est-ce pas? C'est une question un peu rhétorique comme ça, mais qui est tellement profonde. Ce que j'ai envie maintenant, de nous donner 3 minutes, et 3 minutes c'est très long, hein? Je vais nous donner 3 minutes pour nous permettre à Dieu de nous poser cette question. Et ce que je vous propose, c'est de mettre ton nom avant, hein? Liliane, d'où viens-tu et où vas-tu? Je te laisse mettre ton prénom, parce que c'est une question si importante, et passe ce moment avec Dieu. Alors, c'est parti, 3 minutes. Voilà. D'où viens-tu? Où vas-tu? Et je vais lire la suite de ce récit. Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Waouh! C'est pas facile, hein, ce qu'il lui demande. Mais, et il ajouta, et là il va ajouter la promesse qu'il avait faite aussi à Abraham. C'est une promesse énorme. Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourrait pas les compter. Puis il ajoutait, voici, t'attends un enfant. Ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend, car Dieu t'a entendu dans ta détresse. Ah, c'est incroyable, n'est-ce pas, ce récit? Waouh! Parlons un peu des déserts, ce lieu. Et je vais vous demander, est-ce que l'un ou l'autre, vous pensez à qui a déjà été dans un désert, dans les récits bibliques? Réfléchissez un petit moment dans ta mémoire des histoires de la Bible. Qui s'est déjà trouvé dans un désert? Alors, il y a eu Moïse, n'est-ce pas, pendant 40 ans, qui était dans un lieu désertique, en fait, bien qu'il était berger. Voilà. Le peuple d'Israël, alors Moïse en fuite, alors, disons un peu les raisons aussi. Moïse était donc en fuite, mais il a trouvé comme un lieu heureux, hein, où il a pu se marier, avoir un métier. Le peuple d'Israël, appelé dans le désert, c'était un lieu, une sorte de lieu essentiel, hein, un moment essentiel entre leurs deux histoires. Donc c'était passage obligé, peut-être je dirais dans un premier temps, mais avec des prolongations, hein. Donc vraiment, c'est devenu quand même un lieu où ils ont tourné un moment qui est devenu vraiment ça aurait dû juste être un passage d'un bout à l'autre. Et pour finir, c'est devenu vraiment un lieu où ils ont passé beaucoup de temps. Ouais. David, mais en fuite. La raison pour laquelle il y était, c'est la fuite de Saül. Élie également en fuite de Jézabel et Achab. Et là, il va faire une rencontre avec Dieu, mais ça va être un peu le but de mon histoire. Jean-Baptiste, c'est peut-être le seul de toute cette équipe qui finalement a voulu y vivre. Elle n'a pas été. Voilà, il a décidé que son ministère sera dans le désert. Et Jésus, poussé par le Saint-Esprit pendant les 40 jours, qui est allé dans un lieu désert. Ouais. Donc on voit, hein, c'est vraiment une question qui revient, c'est un lieu qui revient régulièrement dans les textes bibliques. Alors, on a un peu parlé des raisons pour lesquelles ils y étaient. Et toi, où est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu traverses un désert en ce moment? Est-ce que tu es dans un désert par choix ou poussé? Parce que une des raisons pour lesquelles on peut être dans le désert, n'est-ce pas, c'est une recherche de Dieu. Il y a des gens qui vont, parce que même pour les vacances, qui trouvent que c'est un lieu beau. C'est vrai qu'il y a une luminosité étonnante. J'ai jamais été moi-même, j'ai trop peur du soleil pour m'y mettre, mais on me dit c'est vraiment magique et que déjà le ciel étoilé le soir, c'est à couper le souffle, mais que ce silence, la beauté des dunes, cet espace, ça doit être vraiment assez impressionnant. Donc on peut y aller pour vraiment de dire je veux être tranquille, je vais trouver Dieu ou je veux trouver un repos. Mais je crois que la plupart de nous, on y est poussé malgré nous, n'est-ce pas? Et quelques raisons, voilà, j'émets quelques raisons, il y en a peut-être bien d'autres encore. La maladie peut être une raison pour laquelle on se trouve tout d'un coup dans le désert. Parce que c'est vrai, j'ai parlé de la beauté du désert, mais on peut aussi le décrire comme un lieu où on est dépouillé de tout, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'horizon. C'est cet espace tellement large, vaste, peut être vraiment, peut faire peur. Ce silence aussi, hein, peut faire peur. Les animaux sauvages, hein, c'était pas sans danger un désert. Les tempêtes de désert. Donc voilà un lieu où on est dépouillé, un dépouillement de tout. On est réduit à vraiment notre essentiel. Et ça peut être vraiment impressionnant, ah ouais, d'être comme ça, nu un peu, hein, on se trouve presque nu, parce que c'est tellement, il y a tellement rien qu'on peut vraiment avoir ce sentiment-là. Et peut-être, ouais, peut-être les raisons pour lesquelles tu te trouves aujourd'hui dans un désert peut être la maladie, des circonstances comme peut-être le chômage, un accident, un deuil, la solitude, voilà, peut-être tu te trouves dans une situation isolée en ce moment, les disputes, où la tristesse règne. Voilà, plusieurs raisons, il peut encore en avoir d'autres. Désolée si j'ai oublié la raison pour laquelle toi tu es dans un désert, mais continuons les récits de ce texte parce que l'histoire d'Agar est vraiment impressionnante. Et d'Agar se demande, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ataelroï. Donc, nous avons dans les récits bibliques un nom que Agar a pu donner à Dieu suite à cette expérience. Ataelroï, Dieu me voit. C'est toi qui me vois. J'aime beaucoup qu'elle dit me voit. C'est très personnel, ce nom de Dieu. Et voilà, c'est ce matin un peu ce que je dis, n'est-ce pas? C'est, je crois pas qu'on peut, il y a des moments où on rencontre Dieu de cette manière-là. Et c'est peut-être l'expérience que toi, tu es en train de faire. Voilà, cette expérience que j'ai aussi faite, c'est justement dans le désert. C'est là que je rencontre Dieu d'une manière vraiment étonnante, d'une manière on n'aurait jamais soupçonné, n'est-ce pas, de rencontrer Dieu de cette manière-là. Je regarde juste dans mes documents, j'ai plus les versets bibliques que je voulais nous montrer. J'espère que je les trouve assez vite pour les lire. Voilà, j'y suis. Alors, il y a ces deux versets dans la Bible. Donc, un verset en Ézéchiel 15, 8. C'est vrai, c'est une forme de jugement que Dieu fait. Il dit, je ferai du pays. Donc ce pays où coulait le miel et du lait et du miel, un désert, parce qu'ils ont été infidèles. C'est vrai qu'il faut qu'on regarde nos déserts en face, de dire, est-ce qu'une des raisons pour lesquelles je suis là est, par exemple, parce que j'ai péché, parce que j'étais infidèle à Dieu. Mais alors, ce n'est pas vraiment toujours le cas, hein. Ça peut vraiment être unique. Mais voilà, ce texte, je voulais pas l'omettre et de pas. Ça peut aussi être un passage à vide parce que Dieu, voilà, nous le permet à cause peut-être d'une rébellion ou d'une infidélité qu'on lui a fait. J'aimerais aussi lire ce passage de Osée 13, 5. Où Dieu dit à son peuple, je t'ai connu dans le désert. Et c'est magnifique, n'est-ce pas? On rencontre Dieu d'une manière toute particulière, au fond de nos souffrances. Ce verset de Psaume 23 est si cher aussi à mon cœur. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je connais aucun mal, car tu es auprès de moi. C'est vraiment l'expérience que j'ai pu faire quand j'étais au plus bas. Eh bien, j'ai jamais, jamais, dans cette vallée de l'ombre où régnait l'ombre de la mort, j'ai jamais autant fait l'expérience de la proximité, de la présence de Dieu. Oui, je peux témoigner que Dieu se trouve dans les lieux déserts. Je t'ai connu dans le désert. Et c'est uniquement en passant dans le désert qu'on peut faire cette expérience-là, n'est-ce pas? Qu'on peut nommer Dieu, qu'on peut dire Dieu, tu es le Dieu qui me voit. Voilà. C'est vraiment à la fois si impressionnant ces moments désertiques et à la fois, n'est-ce pas, le lieu où nous pouvons vivre la présence, la compassion, l'aide de Dieu d'une manière tellement impressionnante. C'est beau comme jamais Dieu va nous abandonner. Jamais il nous laisser. Il est ce Dieu qui nous cherche par mon et par vous. On dit ça, hein, c'est une expression française. Il nous cherchera. Ouais, il est à notre recherche. Et si tu es dans la vallée, en te sentant isolé, ouais, ma prière pour toi, c'est de nouveau de faire cette expérience de ce Dieu qui est là, vraiment, qui est là dans le désert, qui te voit. J'ai une amie m'a envoyé cette image qui sera dans le document et j'espère dans l'enregistrement. Vous connaissez peut-être cette image, il est magnifique, c'est un grand lion qui incarne Dieu, n'est-ce pas, qui incarne Aslan, et ce petit mouton, ce petit brebis qui est tout content, assis sur ses pattes. Et ma question pour nous hier était, qu'est-ce que tu vois dans cette image? C'est cette amie aussi qui me demandait, tu vois quoi? Et je dis, un lion, un agneau, un brebis. J'étais soulagée hier parce que vous ne l'avez pas non plus trouvé, donc j'étais pas seule à ne pas voir. Et au bout de quelques jours, cet ami m'a dit, mais regarde sur sa patte, regarde, ce lion a une montre. Il est maître du temps, notre Dieu. Il sait le temps, il est hors du temps, il n'est pas soumis comme nous à cette... Ouais, ça peut être à la fois être long, n'est-ce pas, le temps, et à la fois des fois passer très vite, mais... Lui, hors du temps, il a une montre. Par ça, mais n'oublie pas, je sais, tes temps sont dans mes mains. Je sais combien de temps tu es dans le désert. Je sais, ma fille, mon fils, t'en fais pas. Je suis là. Et ta réalité, ton histoire. Alors, je disais hier aussi que j'avais l'impression des fois d'être un pot de lait sur le feu. où tout d'un coup, ça déborde comme ça, de manière un peu vraiment violente. Et je me rendais même pas compte que c'était... Et que Dieu était ailleurs, en train de faire des choses bien plus importantes. Mais non, nous ne sommes pas des pots de lait sur le fourneau, sur le feu. Chaque événement de notre vie, qu'on pense des fois... vraiment, oh, tellement petit et minime et tellement insignifiant et pas important. Chacun de nos événements, chaque petit détail dans ta vie, de ta vie, est connu de ce Dieu qui te voit. Il voit même des choses sur toi, tu sais pas toi-même. Dieu me voit, Dieu te voit et il a la montre, il sait. Il sait exactement, il connaît aussi très bien nos limites. Il nous donne les forces pour les défis que nous avons devant nous. Et il est là, fidèle, un Dieu fidèle qui nous voit, qui est vraiment présent pour nous. Voilà. Voilà ce que j'avais sur mon cœur pour nous, chère Église. J'espère, comme moi... Si tu traverses aujourd'hui le désert ou si tu l'as fait, d'avoir fait cette expérience de ce Dieu qui te voit comme Agar. Et voilà, je voulais encore lire le deuxième récit. Donc, première... Ah, non, Genèse 21. On voit que c'est encore tôt le matin. Donc voilà, deuxième récit. Et n'est-ce pas incroyable? Deux fois, cette femme s'est trouvée dans le désert. Et j'aime penser que cette fois-ci, elle allait autrement. Parce que, voilà, elle savait que dans ce désert, il y a ce Dieu qui la voit. De nouveau, il n'y a pas de récit qu'elle ait appelé Dieu. Mais Dieu était là. Dieu était là. Cette fois-ci, c'est Abraham en personne qui la congédie. Le matin, le bon matin, Abraham prépara le pain et une outre d'eau. Il la donna à Agar en le plaçant sur son épaule et lui donna aussi l'enfant et la congédia.
Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson. Elle alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon fils, mon enfant. » Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ?» De nouveau cette question, hein? « Qu'as-tu ?»« N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon, prends-le par la main, et je ferai de lui une grande nation. » De nouveau cette grande promesse qu'il fait à Agar. Dieu est là. Que tu fasses appel à lui ou pas, que tu aies même le courage de l'appeler, ou peut-être même pas, un fait demeure. Dieu est là, il te voit, il est auprès de toi. Oui. Je vais prier. Quel cadeau, Seigneur, quel cadeau de ce récit de toi et Agar. Quelle délicatesse, quelle tendresse, quel respect. Oh, tu es si proche, mon Dieu. Tu es là, vraiment avec nous. Seigneur, tu sais tout de nous. Et tu aimes nous connaître dans le désert, ce lieu de dépouillement, ce lieu où on est à nu. Tu aimes venir justement là, et c'est peut-être justement là que tu peux nous parler, que tu peux nous parler d'une manière toute autre que dans le brouhaha de nos vies. Et Seigneur, merci. Je ne sais pas si je peux te dire merci mais pour le désert, mais merci pour ta présence. Merci parce que jamais tu nous abandonnes, toujours tu es là. Et nous voulons te louer. Nous voulons te louer, notre Dieu, en Église, ensemble. C'est ça qui est beau en Église, qu'on peut lever une voix tous ensemble et de dire, Seigneur, merci, merci, merci pour ta providence, merci pour ta présence. Merci qu'avec une main chirurgicale, tu mènes les choses de nos vies pour le bien, Seigneur. Tu veux sortir le bien de toutes circonstances et tu es là, patient et avec ton œil, tes yeux sur la montre, parce que tu sais exactement combien de temps durent nos déserts et nous voulons te faire confiance. Nous voulons ce matin te dire oui, nous te faisons confiance avec nos vies. Oui. Amen.